Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we verder met het gesprek dat we hebben gehad met twee jongeren van de Cenacolo-gemeenschap. Maar eerst starten we met muziek, beste luisteraars. Zoals gisteren ook muziek van de Cenacolo-gemeenschap.
Su di me ha consacrato il mio cuore a sé.
Mi ha mandato a rivelarlo ai poveri, consolare e guarire i suoi figli smarriti. Tuo amore infinito, Signore,
e tutte le nazioni diventeranno un solo gregge, perché tu ci hai chiamati alla missione di amare.
Io gioisco pienamente del Signore, la mia anima
Santo no.
Siamo testimoni che sei stato tra i poveri, hai consolato, hai guarito i nostri cuori feriti.
Io gioisco pienamente del Signore, la mia anima esulta.
Il mio cuore.
En we gaan verder, beste luisteraars, met het gesprek dat u gisteren heeft kunnen volgen. Gisteren eindigden we met de uitzending waarin Thibaut getuigde dat hij dan uiteindelijk de stap heeft genomen om naar de Cénacolo-gemeenschap te gaan. Thibaut, vertel verder.
Oui, donc je suis rentré et bon, ça a été. Je voyais bien que je sentais tout de suite que ça pouvait être un endroit pour moi, pour guérir, pour aller mieux. Mais ça me faisait aussi un peu peur parce que je savais que ça allait être très, très, vraiment très difficile de par le rythme, l'exigence qu'il y a d'être toujours dans la vérité avec soi-même, avec les autres, retrouver des relations comme ça avec beaucoup de gens. Que je connaissais pas, qui parlent pas forcément ma langue, qui ont des âges et des histoires différentes, vivre cohabiter avec des grands dortoirs de 8 à 10 personnes, moi qui avais eu l'habitude ces dernières années d'être seul, de pas voir personne, un peu tranquille, tout ça me faisait vraiment peur, le se lever à 6 heures du matin. En fait, ce qui me faisait le moins peur, presque, c'est la prière, quoi. et je savais vraiment que ça allait être dur. Ça n'a pas été facile au début. Heureusement que j'avais un ange gardien qui vraiment m'a aidé à rentrer un peu dans la communauté, qui a été mon premier ami, quoi. L'ange gardien, c'est le premier ami. Et après, j'ai dû faire ma place moi-même un petit peu. On a des engagements qu'on doit faire, respecter, qu'il nous faut grandir. Je vais pas raconter un peu mois après mois, parce que là, ça fait déjà 5 ans, mais je dirais qu'après ces 5 ans, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, j'ai retrouvé une discipline de vie, une envie, une volonté. L'envie aussi de me sociabiliser à nouveau dans les relations, prendre goût aux relations. Je me suis beaucoup aussi nettoyé de l'intérieur, voilà, de tout ce que j'avais de mauvais. Je me suis pardonné sur mon passé. J'ai repris un chemin de confiance avec ma famille. Et j'arrive à me satisfaire de choses simples, de petites choses, et trouver de la joie dans les petites choses, les moments très simples. Par exemple, le dernier Noël qu'on a fait, c'est la première fois que je ressentais ça, vraiment. On était, on a partagé des bons repas, des moments très simples, des messes, des moments simples, tous ensemble. Et il ne manquait rien, vraiment rien. Mais peut-être un petit peu la famille, et encore ma famille maintenant c'est ça, et j'avais les frères là, donc vraiment d'avoir fait ce pas de se satisfaire de peu et d'être content avec des choses simples, ça c'est vraiment pour moi un grand pas, moi qui étais tombé un peu comme beaucoup de jeunes dans la superficialité des choses matérielles, de se faire voir dans le paraître, donc c'est un peu tout ça que
En toen hij zijn eerste stappen binnen de gemeenschap deed, Cénacolo-gemeenschap, had hij door dat het een plek kon zijn waar hij echt beter zou kunnen worden. Het was wel heel moeilijk, het was heel hard. Hij zegt vooral in waarheid leven met jezelf was ook heel hard in het begin. En ook de vele sociale contacten. Hij was dan een hele tijd op zichzelf. En nu moest je ineens samenwonen, veel contacten, veel jongeren. Al niet iedereen spreekt dezelfde taal. En dan nog de vaste structuur. Ook die grote slaapzalen. Ongeveer 8 man in 1 slaapzaal. Dat is allemaal een moeilijke stap als je een hele tijd alleen hebt gewoond. Zonder ritme, zonder structuur. En de strakke structuur ook van 6 uur opstaan was ook iets dat hem toch wel in het begin wat beangstigde. Hetgeen waar hij eigenlijk het minste angst voor had, vertelde hij lachend, was het gebed. En hij wist toen hij daar enkele dagen was van oké, deze gaat heel hard worden, maar dat het wel dus echt een plek zou zijn waar hij beter zou kunnen worden. En er zijn hele zware periodes geweest, maar vertelt hij, hij heeft echt heel veel hulp gehad van zijn engelbewaarder. Het is eigenlijk zijn eerste vriend geweest waar hij echt op kon blijven rekenen. En Hij kan vertellen nu, na 5 jaar bij de Cenacolo-gemeenschap, dat hij heel veel hulp heeft gekregen, waardoor hij veel meer discipline heeft in zijn leven, ook zin heeft om iets op te bouwen en ook de mogelijkheid heeft om vriendschappen op te bouwen. Die sociale contacten die volledig waren weggegaan. En ook een belangrijk punt dat hij zichzelf heeft vergeven en opnieuw een weg van vertrouwen met zijn familie kan opgaan. En in een wereld waar alles superficieel is, is hij blij en dankbaar voor al de kleine dingen. Dat heeft hij teruggeleerd met de Cenacolo-gemeenschap. Hij dacht bijvoorbeeld aan de laatste kerstfeest dat hij heeft gevierd met de familie. Gewoon samen eten, samen zijn. Dat hij zo dankbaar is met de kleine, simpele zaken. En dat dat een hele weg is geweest van hoe hij ervoor leefde en hoe hij nu vandaag leeft. Merci Thibault. Oui, pour votre beau témoignage. Siméon, je ne sais pas si tu as encore un peu le temps pour nous raconter comment tu as vécu ou comment tu as pris la décision de rentrer dans la communauté de Cenacolo.
Alors, moi c'est marrant parce que ça me fait toujours sourire de me rendre compte que des histoires très différentes ont toujours quand même des points communs. Voilà, moi, un peu comme Thibault, je viens d'une famille, une bonne famille, une famille simple. J'ai un frère, une sœur, mes parents vivent ensemble. Mon papa a eu un bon travail, j'ai jamais manqué de rien. Et voilà, très vite, même pas d'enfant, je me rappelle que j'étais pareil, un jeune très, très souriant, très, très ouvert, toujours envie de rire, de chanter, de danser, de faire du bazar, plein de vie. Et puis en grandissant, j'ai eu des petites incompréhensions, des difficultés dans la relation avec mon père, avec des difficultés à l'école, qui ont créé des petits détachements à l'intérieur de moi, qui en grandissant ont grandi avec moi. Donc ce qui au départ était juste un sentiment désagréable est devenu vraiment un vide que je devais remplir d'une certaine manière.
En Simeon vertelt eerst dat het hem een beetje doet glimlachen dat de verschillende verhalen eigenlijk altijd, de verschillende getuigenissen, altijd dezelfde punten bevatten. Hij vertelt dat hij zelf uit een mooi, simpel gezin komt, zijn ouders samen en dan een broer en een zus. En als kind was hij eigenlijk altijd vol leven, veel lachen, open, dansen, gelijk een normaal kind. En terwijl dat hij opgroeit, zijn er eigenlijk moeilijkheden op zijn pad gekomen. Moeilijkheden in de relatie met zijn vader. En dan ook op school ging het wat minder goed. En dat heeft eigenlijk, zo vertelt hij het, enkele innerlijke breuken met zichzelf heeft dat gecreëerd. En die zijn met hem verder gegroeid. Wat ervoor gezorgd heeft, als hij wat ouder was, dat er werkelijk een leegte was. Een leegte die hij op een of andere manier zou moeten opvullen.
Voilà. Alors, cette relation avec mon papa a créé un manque de reconnaissance envers moi-même. Voilà, j'avais toujours l'impression de pas être à la hauteur, de toujours faire moins de ce qu'on attendait de moi. Et voilà, à l'école, j'ai jamais eu de difficultés scolaires. J'étais un garçon assez intelligent. J'avais jamais de problème. Je me suis rendu compte très vite qu'en faisant le minimum, j'arrivais au même niveau que les autres, élèves. Et donc en fait, j'ai rien foutu du tout à l'école. Jamais ouvert un livre. Ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Puis à un moment donné, ça fonctionnait plus. Et voilà, toute ma vie, j'ai tout fait en fonction des autres. J'ai toujours pris des décisions en fonction de ce que la société ou les amis avec qui j'étais attendaient de moi. J'ai jamais été capable de faire un choix parce que c'est quelque chose que je voulais moi-même. Ce manque de reconnaissance, ce manque d'estime de soi qui me manquait, faisait que j'avais besoin du regard des autres pour me sentir entier.
En hij vertelt dat de relatie met zijn vader een soort tekort heeft gecreëerd aan een goed zelfbeeld, aan eigenwaarde. En dat hij daardoor altijd het gevoel had dat wat hij ook deed, dat falen was. En eigenlijk had hij als kind ook nooit problemen op school. Het was een slim kind, zonder veel te doen kon hij er gewoon geraken. Hij heeft gedurende vele jaren zelfs geen boek open gedaan en dat was allemaal in orde tot op het punt dat niet meer werkte. En heel zijn leven, tot die leeftijd, is hij nooit capabel geweest om iets te kiezen voor hemzelf. Door dat te laag zelfbeeld, hij had die blik van anderen nodig om ergens voor te kiezen. Dus hij koos enkel als hij dan aanzien kreeg van de anderen.
Voilà, donc tout ce que je faisais, c'était pour me faire voir. J'essayais toujours d'être le plus fort, le premier partout. Et ça, dans mes relations avec les jeunes à l'école, a créé des problèmes. Et j'ai souffert du harcèlement à l'école pendant plusieurs années. Voilà, du harcèlement jusqu'à un point où moi, j'ai grandi et j'ai commencé à harceler pour ne plus être harcelé moi-même. Et en fait, voilà, tout ça, c'était vraiment une spirale qui m'entraînait vers le fond. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je me rends compte que j'ai fait plein de choses, mais je suis incapable d'exprimer un sentiment. Donc tout ce que je faisais... Oui, les voyages, le sport que je faisais, tout ce que je faisais, c'était bien, mais je suis plus capable d'exprimer un moment où j'étais vraiment content, ou un moment où j'ai été vraiment triste, ou un moment où j'étais vraiment fâché. J'ai vécu toute mon adolescence presque anesthésié des sentiments. Voilà, partant de ce harcèlement, en fait, je m'étais renfermé sur moi-même. Je me rendais compte que dès que je m'ouvrais un peu, dès que je faisais voir mes faiblesses ou mes défauts, systématiquement, on l'utilisait pour me faire du mal. Et donc, je me suis renfermé sur moi-même, je me suis renfermé aux autres, j'ai arrêté de parler, arrêté de m'ouvrir, devenu quelqu'un de très solitaire. Même si je continuais toujours à avoir des amis, des personnes avec qui tourner, j'avais aucun problème d'un jour au lendemain à les envoyer tous péter et recommencer à zéro, quoi. Au moins c'est ce que je pensais, mais aujourd'hui je me rends compte que chaque fois que je tournais la page, que je changeais de groupe d'amis, c'était un déchirement en plus pour moi.
En Simeon vertelt dat hij eigenlijk dus alles deed om gezien te worden. Hij moest de sterkste zijn, hij moest de beste zijn. En daardoor is er eigenlijk veel ruzies ontstaan met kinderen, ook op school, waardoor hij eigenlijk zwaar gepest is geweest. En op een gegeven moment begreep hij van, ja, oké, als ik dan pest, dan zal ik minder gepest worden. En zo is eigenlijk de spiraal naar beneden volledig begonnen. Het was voor hem ook heel... gewoon onmogelijk om echt te verwoorden hoe hij zich voelde. Heel zijn jeugd is precies verlopen verdoofd voor gevoelens. Hij kon niet zeggen als hij gelukkig was, als hij niet gelukkig was. Het was een soort verdoofde periode. En hij is helemaal op zichzelf geweest, dus helemaal afgesloten voor anderen, omdat hij dat ook als bescherming deed, want elke zwakte dat je liet zien of een foutje van jezelf, daar werd je voor gepest. En dus sluit je je beter helemaal af, was zijn gedachte, wat hij ook heeft gedaan. En ook al had hij wel nog vrienden, maar als hij die vrienden wat beu was, dan liet hij ze schieten en ging dan naar een andere vriendengroep, wat hij nu beschrijft achteraf als nog een extra scheur voor hem, een afscheuring van vrienden die hem niet verder heeft geholpen.
Voilà, alors moi j'ai trouvé mon refuge dans cette période, ma manière d'échapper de cette réalité qui me dégoûtait, que je voulais pas vivre, ça a été les écrans, c'était voilà, le monde d'Internet, pareil un peu comme Thibaut, j'étais capable de passer des heures et des heures et des heures à ne rien faire, mais pour moi c'était important de pas être dans le monde, j'avais besoin de, voilà, j'ai essayé de remplir ce vide que je sentais à l'intérieur avec plein de, voilà, le monde d'Internet, tout ce que ça peut offrir de beau, mais surtout de pas de moche. Et voilà, et en fait, le mal appelle plus de mal. Donc, quand tu vas mal, quand tu te fais du mal, tu fais jamais que du mal à toi-même. Et voilà, moi je me rends compte aujourd'hui que même dans le sein de la famille, avec les amis peut-être plus proches que j'avais, ma manière de faire a blessé énormément les personnes autour de moi. Jusqu'au point où je me suis retrouvé vraiment tout seul. Un jour, à 18 ans, ma maman m'a amené à rencontrer un monsieur, une personne qui avait été en communauté. Et alors, c'est marrant parce que j'ai aucun souvenir de cette rencontre. Donc, je me rappelle qu'on est parti le matin. Et puis, je me rappelle qu'on est sorti de là-bas. Et moi, j'ai regardé ma maman et je lui ai dit, écoute, si tu aimes tellement la communauté, t'as qu'à y aller toi-même. Moi, ça m'intéresse pas. Et là, ma maman, elle m'a donné une belle claque. Pas physiquement, mais elle m'a dit, écoute, Siméon, t'as pas compris, t'as pas le choix, en fait. Ou bien tu rentres, ou bien tu t'en vas. Et à ce moment-là, voilà, c'était vraiment la dernière personne qui, pour moi, la dernière personne avec qui je pouvais encore être moi-même, la dernière personne avec qui encore j'arrivais à m'ouvrir plus ou moins, qui me fermait la porte. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis retrouvé tout seul, complètement.
En Siméon vertelt dat hij door die hele pestproblematiek ook volledig is gaan schuilen op internet, met schermen, uren met niks doen eigenlijk. Gewoon om te vluchten, wegvluchten uit deze wereld en met iets bezig zijn dat niet van niet in de wereld zijn. En hij zegt dat als het slecht gaat met je, wel al het kwade, al het slechte roept nog meer slecht op, roept nog meer kwaad op. En dat ziet hij ook in de relaties. Als je jezelf kwaad of pijn doet, raak je ook de mensen rond je. Ook in zijn eigen familie. Hij vertelt dat toen hij 18 jaar oud was, zijn moeder hem een man liet ontmoeten, een persoon die in de gemeenschap Sinakolo heeft geleefd. En na zijn getuigenis vroeg zijn moeder van, wat vind je ervan? En dan antwoordde Siméon, als je dat zo'n mooie gemeenschap vindt, moet je er maar zelf naartoe. En waarop zijn moeder zei van, ja, maar je hebt geen keus, besef dat je geen keus is. Dit is je laatste kans. En door het feit dat zijn moeder dat heeft gezegd en dat eigenlijk de laatste persoon op wie hij kon rekenen een soort deur dicht deed in zijn gezicht, heeft hij dan maar die stap gezet. En we gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars van Radio Maria. Zo dadelijk zijn we bij u terug.
merci de te pencher sur chacun de nous. Merci de visiter chacun de nos cœurs. Nous te bénissons et nous te louons pour ta miséricorde qui nous relève, qui nous tourne vers toi.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met ons gesprek die we hebben met Thibaut en Sibéon, twee jongeren die samenleven, samenwerken met de Cénacolo-gemeenschap.
Voilà, à ce moment-là, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Et j'ai eu un moment où je me suis dit une sorte de rébellion à l'intérieur de moi. Voilà, je me suis regardé un jour, j'ai dit, mais j'ai 18 ans. Et moi, je ne peux pas accepter que ma vie, à 18 ans, soit condamnée à être ça. Je pouvais pas accepter qu'il y avait que ça pour moi. Enfin voilà, moi j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà atteint le maximum, le futur, le plus grand futur possible. Et voilà. Et un jour, j'ai été voir mes parents. Je leur ai demandé vraiment. Je leur ai dit, écoutez, envoyez-moi à la communauté. J'ai besoin de changer quelque chose. Je savais pas ce que j'avais besoin de changer, mais je sentais que c'était vraiment quelque chose qui valait la peine.
En is dan alleen terechtgekomen voordat hij die stap heeft gezet om naar de gemeenschap te gaan? Hij heeft eigenlijk een beetje zeg maar, in de spiegel gekeken en hij zei, ja, ik ben 18 jaar. Is dit dan alleen wat mijn leven gaat zijn? En dan is hij terug naar zijn ouders gegaan en heeft hij gezegd, stuur me maar naar de gemeenschap, want ik weet dat ik iets moet veranderen. Hij wist niet wat, maar hij wist dat er iets moest gebeuren.
Et voilà, je suis arrivé en communauté. Alors, Thibaut a parlé un peu de l'ange gardien. L'ange gardien, c'est un jeune qui est là depuis plus de temps, qui t'accueille. Alors, la période de l'ange gardien dure un mois et demi. Et cette personne vit avec toi tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, on dort dans les lits superposés. Lui dort en dessous, toi tu dors au-dessus. On mange ensemble, on prie ensemble, on travaille ensemble, on parle ensemble. Et donc, en fait, au bout de deux semaines, même au bout de deux jours, tu peux plus l'encadrer, quoi. Et voilà, tout le monde passe par là. Et mais comme a dit Thibaut, c'est vraiment la première personne que tu redécouvres comme un ami vrai, un ami qui est là pour toi.
En Thibaut vertelde daar juist, beste luisteraars, over een engelbewaarder, hoe belangrijk dat is. En Sibéon vertelt ons dat de engelbewaarder eigenlijk een andere jongere is die ook in de gemeenschap zit, die er al langer zit en die eigenlijk ja, de hele tijd bij jou blijft als nieuwkomer. Je moet dat rekenen, een maand en een half, dat je eigenlijk continu samen bent. Je doet alles samen, samen eten, samen bidden. Ze slapen in stapelbedden, dus die slaapt ook dicht bij je. Dus het is continu samen zijn. En dat moet je, ja, soms ben je dat na een week een beetje beu, soms al na 2 dagen, dat je denkt, oké, deze is genoeg. Maar uiteindelijk is het wel iets zeer waardevol.
Voilà, moi je suis arrivé, je me rappelle, à 18 ans, mon ange gardien, c'était un jeune français qui venait de Tahiti, donc comme Dwayne Johnson, The Rock. Il était grand, il était assez gros, et moi je l'ai regardé, j'ai fait, mais où est-ce que je suis arrivé? Et alors, il était très particulier parce que ce jeune me demandait tout le temps comment j'allais. Et cette question m'insupportait. Je me rappelle qu'au début, je ne répondais pas, puis il continuait à demander toujours, 5, 10, 15, 20 fois par jour. Du coup, pour qu'il me laisse tranquille, j'ai commencé à lui raconter plein d'histoires. Parce que voilà, dans la vie que j'avais faite jusqu'à maintenant, souvent, pour me faire voir plus grande que ce que j'étais, j'inventais des mensonges. Et donc, je lui ai refourni toutes mes histoires, toutes mes inventions. Et à ce moment-là, il m'a regardé, il m'a fait « Mais tu te rends compte que j'en ai rien à faire de ce que tu me racontes ? Je m'en fous que tu aies été... Que tu aies été président ou que tu aies été dans tous les pays du monde ou que tu aies fait ci ou que tu aies fait ça, parce que de toute façon, tu es fini en communauté comme moi. Et là, il m'a dit, moi, j'ai envie de savoir ce que tu vis, toi, maintenant. Comment tu te sens vraiment à l'intérieur. Et c'est la première fois que j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un s'intéressait à ce que j'avais à l'intérieur de moi.
En de engelbewaarder van Simeon was een zeer bijzondere jongere. Hij was uit Tahiti, sprak Frans en hij leek een beetje op Dwayne Johnson, de acteur, The Rock. Dus groot en breed, dat was wel heel bijzonder. En hij bleef maar vragen aan Simeon, hoe gaat het? En ook al antwoordde Simeon niet, bleef hij die vraag stellen. En dan, zoals hij deed in het gewone leven... vertelde Simeons verschillende leugens om zo zich beter voor te doen dan dat hij was. En dan vertelde zijn engelbewaarder dat het hem eigenlijk totaal niet kon schelen als hij nu de president van weet ik veel welk land was geweest of dat hij zoveel dingen had kunnen doen. En hij zei, ja, je bent hier samen met mij in deze gemeenschap en daar gaat het om. En dat heeft toch wel een ommekeer gecreëerd bij Simeon.
Voilà, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à parler, à mettre des mots, finalement, sur ces blessures de l'enfance que je n'avais jamais exprimées. Et en fait, ça a été comme un poids qui s'est envolé. Moi, j'ai toujours cette image, non, quand tu manges quelque chose de pourri, quand tu as un goût pourri dans la bouche, ben, tu ne l'avales pas. Tu le craches, tu te rinces la bouche, il faut que ça sorte. Et je me rends compte qu'en fait, c'est la même chose avec ce que tu vis à l'intérieur. Les émotions que tu vis sont normales, parce qu'on vit tous des émotions, mais elles ne peuvent absolument pas contrôler ma vie. Et pour les empêcher de contrôler, je dois leur donner un nom, je dois exprimer ce que j'ai vécu.
En dan heeft Simeon leren spreken, durven spreken, leren verwoorden, ook wat de blessures uit zijn jeugd waren. Hij zegt, als je iets rot eet of een rotte smaak hebt in je mond, dan moet dat ook eruit, dan was je mond ook. En eigenlijk kan je dat vergelijken met emoties. Die emoties zijn er, dat moet je niet gaan verdringen, maar je moet het ook kunnen verwoorden en kunnen uitspreken. Want zo pas kan je dat allemaal een plaats geven.
Voilà, moi, je suis rentré pour 6 mois. Et puis finalement, là, ça fait 6 ans. Et en fait, j'ai été foudroyé par l'amitié, par la manière dont ces jeunes étaient capables de vivre l'amitié. Moi, je regardais ces jeunes et je voyais des yeux pleins de vie, des sourires. Quand je me rappelle, quand je suis arrivé, je suis rentré à Lourdes, on était dans le potager, il faisait froid, il y avait de la boue, il pleuvait... Et les jeunes, ils chantaient, ils souriaient, ils étaient contents. Moi, au début, je me disais, mais ils se droguent encore, ceux-là. Et puis en fait, c'était vraiment une joie beaucoup plus profonde, beaucoup plus intérieure. Et voilà, j'ai été vraiment touché de voir que là-bas, j'ai trouvé vraiment des personnes avec qui je peux être moi-même, des personnes avec qui je peux m'ouvrir, mais surtout des personnes sur qui je peux compter. Je sais que le jour où moi, j'aurai des difficultés, des problèmes, il y aura quelqu'un qui viendra à me donner un coup de main, à m'aider à me relever, à me dire que c'est pas un problème, que c'est pas la fin du monde, que demain ne doit pas être comme aujourd'hui ou ne doit pas être pire qu'aujourd'hui, que demain peut aller mieux.
En Simeon vertelt dat hij voor 6 maanden was bij de gemeenschap getreden en nu is het ondertussen 6 jaar. En eigenlijk verwoordt hij het alsof hij door een bliksem geraakt is door het zien van de vriendschap tussen de jongeren en ook het echt een leven in hun blik, een motivatie, een echte vriendschap met elkaar. Hij vertelt ook ooit waren ze in een van de huizen in Lourdes. Het was koud en ze moesten werken in de moestuin. En toch zaten ze daar allemaal te werken, al zingend. En dat is iets wat hem echt is bijgebleven. En ik kan nu zeggen dat de andere jongens wel, dat dat echte vrienden zijn. Die zullen hem helpen wanneer het moeilijker zal zijn. En hem helpen terug opstaan en relativeren. Kijk, morgen zal minder slecht zijn als vandaag. En hij kan daardoor ook veel opener zijn en durven woorden te zetten op zijn emoties.
Voilà, moi je crois vraiment que la communauté tourne autour de ça. À travers la prière, à travers le fait de se mettre à genoux et de... Je crois parfois aussi arriver à dire qu'en fait on ne contrôle rien. Parce que... J'ai toujours essayé de contrôler tout et ça a toujours foiré. Et alors, moi, ma relation avec Dieu, je crois que c'est vraiment ça. Moi, j'ai toujours voulu comprendre tout. J'ai toujours voulu analyser tout avec ma tête. Et en fait, je crois que ma relation avec Dieu, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Moi, je comprends rien du tout. Mais je sens que j'ai besoin de ça. Je sens que j'ai besoin de me remettre tout entier et de lâcher prise en fait, de pouvoir vraiment dire je contrôle plus rien, je contrôle rien parce que ma vie m'appartient jusqu'à un certain point. Et voilà, la communauté, c'est vraiment le message profond, c'est vraiment ça. C'est Mère Elvira, elle disait toujours, moi, je vous apprends pas à ne pas retomber. Il y a pas de médicaments, il y a pas de remède miracle, il y a pas de baguette magique qui te garantira que tu n'auras plus jamais de problème dans ta vie. Mais voilà, Mère Elvira, elle disait vraiment, l'important, c'est de te relever. Si tu peux tomber 10 fois, mais du moment que tu te relèves 11 fois, il n'y a aucun problème. La chute fait partie de la vie normale.
Simeon gelooft echt dat deze gemeenschap zoveel kan helpen. Het draait om gebed, het samen zijn. En iets wat hij geleerd heeft, is dat je niet alles kan controleren. Je moet leren loslaten. En hij vertelt ook dat zijn relatie met God bijvoorbeeld iets is wat hij niet begrijpt, maar hij weet dat hij alles in handen heeft en dat Simeon hij gewoon moet loslaten. En vertelt ook trouwens dat moeder Elvira heeft gezegd, ik leer jullie niet om nooit te hervallen, want er is geen wondermiddel, zolang je maar terug opstaat. Dus als je 10 keer valt, zolang maar je de 11e keer ook weer terug opstaat. En dat eigenlijk iets is waar je moet... mais les relèves.
Et voilà, alors aujourd'hui, je me rends compte que la vie que j'ai vécue jusqu'à un certain point était une vie sans amour. J'avais renfermé complètement mon cœur par peur d'être blessé, par peur de souffrir. Mais pour moi, cette vie sans émotion, une vie sans sentiment, c'est le pire des enfers. Et, Et voilà, j'ai eu du mal, j'ai toujours du mal, parce qu'aujourd'hui, ben, comme je disais, la communauté, elle ne m'a pas transformé miraculeusement. Ma dépression est toujours là. Ma dépendance aux écrans est toujours là. Je suis rentré en communauté, j'étais paresseux. Je suis toujours paresseux. Je suis rentré en communauté, on ne pouvait rien me dire sans que je réponde. Ben, c'est toujours le cas. Et voilà, j'apprends à vivre avec moi-même. J'apprends à accepter qui je suis. Mes qualités, mes défauts, j'apprends à les mettre au service des autres. Et voilà, alors, je vous partage une dernière expérience. Moi, je suis parti un an au Mexique. La dernière année, j'étais là-bas au Mexique, dans une mission. Donc, la communauté a des maisons qui accueillent des enfants des rues.
En Simeon getuigt dat hij nu vandaag echt kan zeggen dat hij een leven heeft geleefd die zonder liefde was, zonder gevoelens, waar hij werkelijk zijn hart volledig gesloten heeft, bang om te voelen, bang voor de werkelijkheid. En dat was eigenlijk een hel. Hij zegt een leven zonder gevoelens, zonder emoties is een hel. En hij vertelt ook dat de gemeenschap Cenacolo hem niet heeft genezen, maar dat hij echt leert aanvaarden wie hij is en leert met zijn eigen te leven. Hij zegt bijvoorbeeld van, toen ik in de gemeenschap kwam, was ik lui. Nu ben ik ook nog een beetje lui. Toen ik in de gemeenschap kwam, moest ik altijd antwoorden als iemand mij iets zei. Dat zit er ook nog een beetje in. Maar hij leert werkelijk aanvaarden wie hij is. En dan vertelt hij dat hij nog iets wil delen met jullie, beste luisteraars. Hij is een jaar in Mexico geweest, in een missiehuis voor straatkinderen, want de gemeenschap Cenacolo heeft ook zo'n huizen.
Et donc voilà, je suis parti dans cette mission. J'ai vécu pendant un an là-bas avec des enfants. Et ça a été incroyable parce que, voilà, même en communauté, j'ai eu du mal à rouvrir mon cœur. J'ai bougé pas mal de maisons. Donc en communauté, en général, on nous déplace régulièrement d'un endroit à l'autre. Et ça m'a jamais coûté de m'en aller. J'ai jamais eu de difficulté à dire au revoir aux personnes avec qui je vivais, de saluer l'endroit. C'était toujours, enfin voilà, j'étais vraiment encore anesthésié. La vie que j'ai vécue là-bas avec les enfants, je me rends compte aujourd'hui que ces enfants qui, à 8 ans, 10 ans, ont déjà vécu des choses qu'on peut même pas imaginer, ben eux, ils sont arrivés à rentrer là où personne n'était rentré avant, en fait. Ils ont vraiment réussi à me toucher dans le cœur. J'ai dû partir au bout d'un an. Et en fait, je regrette pas parce que la vie continue. Mais j'ai vraiment, vraiment eu du mal à m'en aller de là-bas, à laisser partir ces enfants. Voilà. Et donc aujourd'hui, mon chemin continue. J'essaye de m'ouvrir. Tous les jours, j'essaye d'accepter le pari de l'amour, non ? Le pari, voilà, parce que c'est vrai, ouvrir son cœur à l'amour, ça veut peut-être dire parfois qu'on va être blessé en retour. Mais j'ai vécu l'autre vie et je veux plus jamais y retourner. Voilà, moi, je crois vraiment que le message de la communauté est un message d'espérance. Donc le centre, c'est vraiment de dire on a tous des moments difficiles, mais qui le vit plus fort, qui le vit moins fort. Mais moi, je crois pas, ça existe pas une vie parfaite, une vie sans problème, une vie sans difficulté. Tout le monde a eu des problèmes, tout le monde a eu des contrariétés. Et l'important, c'est pas de s'arrêter là, parce que enfin, voilà, tout passe. Le mal comme le bien, tout passe. Et ces moments passent. Et puis si on arrive à le vivre correctement, la difficulté et la souffrance devient une possibilité pour grandir, en fait. Sans la souffrance, je crois qu'il n'y a pas de croissance.
En Simeon vertelt dus over zijn jaar in Brazilië, was het?
Mexico.
In Mexico, sorry. Met de straatkinderen, dat eigenlijk een prachtige periode was. Simeon heeft in verschillende huizen van de Cenacolo-gemeenschap geleefd, want dat is daar iets normaal om de zoveel tijd je van huis te veranderen. En aangezien hij het moeilijk heeft om zijn hart te openen, was het veranderen van huis nooit echt heel moeilijk. Maar toen hij in Mexico was en daar dan na een jaar weg moest, kan hij wel vertellen dat het juist die kinderen van 8, 10 jaar, die al zoveel hebben meegemaakt, de dingen ze hebben meegemaakt dat wij niet kunnen begrijpen, beseffen, wel dat die kinderen hem wel hebben geraakt, dat ze zijn hart wel hebben geopend. En dat die afscheid toch wel zeer zwaar was. En zijn weg vandaag voor Simeon gaat verder, leren zijn hart te openen. En hij vertelt dat zoveel beter is dan het leven dat hij gehad heeft, want dat leven wil hij nooit terug. En hij zegt dan nog, ja, wie heeft er nu een leven zonder problemen, zonder moeilijkheden? Uiteindelijk, alles gaat voorbij en je moet gewoon leren te leven met je problemen, deze goed te beleven, de moeilijke momenten. En uiteindelijk zal het lijden en de pijn ons ook doen groeien, als we het op een goede, mooie, correcte manier beleven.
Voilà, juste une dernière chose. Comme j'ai dit au début, le mal crée du mal. Et à la même manière, le bien crée du bien. Moi, aujourd'hui, je suis témoin des changements, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de toutes les personnes autour de moi, dans ma famille. Le bien, ça part de nous, ça part de petites choses. Il ne faut pas faire grand-chose pour... c'est presque un choix, en fait. Aller bien, c'est un choix. En communauté, par exemple, on nous dit, même quand tu as la difficulté, souris, parce que peut-être que toi, tu vis des difficultés et il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui vit des difficultés encore plus grandes et de voir ta tête d'enterrement, ça ne l'aide pas, alors qu'un sourire, un simple sourire peut changer, quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment faire le choix, faire le pari, décider de ne pas accepter que la vie est comme ça et que ça sera toujours comme ça. Et il faut pousser pour plus, parce qu'il y a plus.
En Simeon wil nog even delen, zoals hij zei in het begin, van kwade creëert meer kwade. Wel, omgekeerd werkt het ook, hè. Door goed te doen, komt er nog meer goeds. En het ligt echt in die kleine dingen, hè. Kiezen voor die kleine goede dingen. Want uiteindelijk is, opdat het goed gaat met jezelf, dat is ergens ook een keuze dat je moet maken. Bijvoorbeeld in een gemeenschap vertelt hij, ook al gaat het moeilijk, wordt je gevraagd, ja, blijf glimlachen. De persoon naast je heeft het misschien ook moeilijk met nog veel zwaardere dingen. En alleen al de keuze nemen om te glimlachen is al kiezen voor het goede, kiezen om beter te gaan. Merci beaucoup, Thibaut. Merci beaucoup, Simeon, pour votre témoignage très fort. Nous allons prier avec nos auditeurs pour vous, pour votre chemin qui vient, pour le chemin que vous avez déjà fait. Un chemin quand même très spécial. Merci d'avoir partagé cela avec nos auditeurs.
Merci à vous.
En ik bedank Thibaut en Simeon voor hun getuigenis, beste luisteraars, en beloof hen dat we samen voor hen zullen bidden, voor de weg die ze reeds hebben gedaan, een straffe weg, en de weg die voor hen staat.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
D'où nous l'ont écrit, qu'un temps la nuit
tout s'efface.
pour ne pas oublier, pour tout changer.
Mélangeons demain dans un refrain nos visages,
métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag kiezen. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.